France Inter.
Bonjour Luc.
Bonjour à tous.
Direction la Russie dans le journal, à la rencontre de Français qui jouent le rôle d'observateurs dans le scrutin présidentiel qui se tient ce week-end.
Et parmi eux, on trouve un militant d'ultra-droite, un influenceur conspirationniste et climato-sceptique, ou encore un ancien élu local de la banlieue de Dijon. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Le vice-président de Médecins du Monde se dit terrifié à l'idée qu'il y ait une opération militaire à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien a approuvé hier le plan d'action de l'armée. Verdict aux assises de Paris et condamnation pour le père de la petite Luna, morte à l'âge de 2 mois après avoir été victime du syndrome du bébé secoué. À l'occasion du salon de la franchise ce week-end à Paris, nous reviendrons sur ce système en pleine expansion depuis 20 ans qui représente aujourd'hui près de 100 000 emplois en France. Et dans le journal des sports, nous évoquerons bien sûr le crunch France-Angleterre ce soir en rugby dans le tournoi des 6 nations. Vous invitez à 8h20, Ali et Marion.
Il dresse le portrait de l'intelligence artificielle à la française, positive pour la croissance et pour l'emploi, et donne à l'Élysée les clés pour y arriver. L'économiste Philippe Aguillon et la chercheuse Anne Bouvreau, auteur d'un rapport sur l'IA remis à la présidence cette semaine, seront avec nous juste après le journal.
Vos interrogations, vos interventions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter.
114 millions de Russes appelés à voter durant tout ce week-end.
Oui, pour élire leur président. Alors sur le papier, il n'y a pas de surprise. Vladimir Poutine est évidemment l'immense favori à sa propre succession, l'opposition ayant été éradiquée. La Russie qui a interdit tous les observateurs indépendants à cette élection. Seuls les 4 candidats sont autorisés à en envoyer. Mais pour faire face aux accusations de fraude électorale, traditionnellement massives dans le pays, et pour donner aussi un vernis de sincérité au scrutin, Moscou choisit donc d'inviter des observateurs étrangers soigneusement sélectionnés qui viennent valider le processus électoral. Et parmi eux, Sylvain Tronchet, il y a des Français.
La Russie revendique 700 observateurs étrangers sur cette présidentielle. Depuis hier, ils sont promenés dans les bureaux de vote aux quatre coins du pays et parmi eux, on trouve des Français, souvent recrutés à l'extrême droite, voire la droite la plus radicale, comme Ivan Benedetti, militant d'ultra-droite, bien connu en France, condamné plusieurs fois pour négationnisme ou propos racistes. Il était hier à Novosibirsk.
I can say that everything is clear and very good organization.
Je peux dire que tout est clair, bien organisé. Les observateurs internationaux font le miel de la télévision russe qui les interviewe.
My name is Christian Roll, I am French.
Christian Roll, lui, est écrivain. Il se définit lui-même comme pro-russe et va jusqu'à dire
There is more democracy here than France.
Il y a plus de démocratie ici qu'en France. Parmi les Français invités par la Russie, actuellement, on trouve également Franck Pingam, un influenceur conspirationniste, climato-sceptique. On trouve aussi des profils moins à droite, comme l'ancien sénateur UDF Emery de Montesquieu ou un élu local de la banlieue de Dijon, Cyril Gaucher, encarté chez LR. Tous ont des liens, parfois financiers, avec la Russie et entendent bien les garder. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et le démarrage du scrutin présidentiel russe a été perturbé hier, notamment par des actions de protestation isolées. Selon des médias russes, une femme a été interpellée après avoir incendié un isoloir à Moscou. Une autre de 20 ans a, elle, tenté de jeter un cocktail Molotov sur un bureau de vote à Saint-Pétersbourg. Dans ce contexte, après des semaines de vives tensions sur la stratégie adoptée face à Moscou, le chancelier allemand Olaf Scholz et Emmanuel Macron affichent leur unité sur l'aide à l'Ukraine. Réunis hier à Berlin en compagnie également du Premier ministre polonais, le président français a assuré que les trois pays étaient déterminés et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie. Nous allons notamment acheter encore plus d'armes pour l'Ukraine, a notamment annoncé le chancelier allemand à l'issue de la réunion. 200 tonnes de vivres ont commencé à être déchargées dans la bande de Gaza. Parti mardi de Chypre, un bateau de l'ONG espagnole Open Arms est arrivé hier dans l'enclave pour tenter d'éviter une famine. Dans le même temps, le Premier ministre israélien a approuvé le plan d'action de l'armée en vue d'une offensive à Rafah, alors qu'un 1,5 million de Palestiniens sont réfugiés dans cette ville frontière de l'Égypte. Une opération très redoutée par Jean-François Corti, le vice-président de Médecins du Monde.
Nous sommes terrifiés à l'idée qu'il y ait une opération militaire à Rafah. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a 1 million de personnes qui ont déjà été déplacées à plusieurs reprises, qui sont en bout de course, fatiguées, épuisées, psychologiquement à bout. Et puis des équipes comme celle de Médecins du Monde, c'est une vingtaine de personnes. Nous avons réussi malgré tout à nous reconsolider, à refaire rentrer un peu de matériel, à faire des consultations pour des populations qui sont exsangues. Et on n'imagine même pas une opération militaire qui pourrait à nouveau annihiler nos opérations, celles des quelques collaborateurs et ONG qui essaient de faire des soins, de délivrer de la nourriture et autres. Ce serait une catastrophe dans la mesure où il n'y a aucun dispositif d'aide en place aujourd'hui proportionné pour répondre non seulement aux besoins des 300 000 personnes dans le centre et dans le nord, mais pour répondre aux besoins de potentiellement 1,5 million de personnes qui sont déjà extrêmement épuisées, fatiguées, en rupture nutritionnelle et en défaut de soins.
Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde chez nos confrères de France Info. Un allié de poids en moins pour Donald Trump dans la course à la présidentielle aux États-Unis. Son ancien vice-président Mike Pence a annoncé cette nuit qu'il ne le soutiendra pas. Chrétien évangélique, farouche opposant à l'avortement, il a aidé l'homme d'affaires à conquérir la droite religieuse en étant son colistier lors de la campagne de 2016. Après des années de loyauté indéfectible, Mike Pence a changé de ton après l'assaut contre le Capitole. C'est une revanche après l'essai que, souvenez-vous, du contrat australien il y a près de 3 ans. Les Pays-Bas choisissent l'entreprise tricolore Naval Group pour construire ses 4 nouveaux sous-marins. Un succès obtenu après une compétition acharnée à Gatmahuet.
C'est la première victoire pour le constructeur français depuis l'énorme raté de son méga contrat avec l'Australie il y a 2 ans et demi. 12 sous-marins vendus avant que Canberra n'annule tout. Cette fois, ce sont 4 exemplaires du Barracuda qui sont donc destinés à la défense néerlandaise pour plusieurs milliards d'euros. Le montant exact n'est pas connu. Le modèle équipe déjà la marine française, mais dans une version à propulsion nucléaire. Ceux destinés aux Pays-Bas sont plus petits, 3000 tonnes et une propulsion conventionnel diesel électrique pour des missions lointaines. Les 2 premiers devraient entrer en service d'ici 10 ans. Leur coque sera réalisée à Cherbourg. Mais le choix de ces sous-marins français plutôt que néerlandais fait des remous dans un contexte politique agité aux Pays-Bas. C'est le Parlement néerlandais d'ailleurs qui aura le dernier mot pour entériner l'accord.
Les explications d'Agathe Mahuet pour France Inter.
8h08, c'était il y a 7 ans. Luna, une bébé âgée d'à peine 2 mois, mourait après avoir été victime du syndrome du bébé secoué.
Et hier soir, la cour d'assises de Paris a condamné le père du nourrisson à 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Le grand-père, lui, a été acquitté. Comme l'avocate générale l'avait demandé, les jurés ont donc choisi lequel des 2 accusés avait pu commettre de tels faits. C'est donc la fin de 5 jours d'audience, riche en émotions, et cela jusqu'aux derniers instants. Jean-Philippe Dogniaux.
À peine le verdict prononcé, des larmes profondes ont secoué la famille de Luna. La mère, qui attendait depuis si longtemps une réponse au drame qu'a vécu sa fille il y a 7 ans, et en face, sur leur chaise d'accusé, ce grand-père acquitté, si triste de voir son propre fils, le père de Luna, bientôt partir en prison. Cet homme qui, depuis le début, dit qu'il n'a jamais fait de mal à sa fille, et qui hier, juste avant que les jurés partent délibérer, a livré cette phrase énigmatique « Je n'ai aucun souvenir d'avoir pu faire du mal à ma fille ». Dans ses motivations, la cour d'assises explique que le grand-père n'aurait eu ni le temps ni les raisons de commettre un tel geste sur le bébé, tandis que le père, fatigué par son travail intense, handicapé par des crises d'épilepsie régulières, a certainement craqué ce jour-là. 4 ans de prison ferme qui sanctionnent la gravité des faits, mais aussi ces années de silence et de déni pour échapper à ses responsabilités. Une réponse judiciaire qui va peut-être permettre à chaque membre de cette famille déchirée de se reconstruire.
Compte rendu du procès retrouvé également sur le site internet de France Inter. C'est un système qui attire toujours plus de candidats. La franchise, le nombre d'enseignes a été multiplié par 4 en 20 ans. Il faut dire qu'aujourd'hui, tous les secteurs d'activité sont concernés. L'alimentaire, la mode, l'immobilier, les services à la personne, les voyages, avec aujourd'hui au total plus de 2000 réseaux de franchise qui représentent quand même près de 100 000 emplois. Le salon Franchise Expo débute d'ailleurs aujourd'hui à Paris et jusqu'à lundi. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors dites-nous, pourquoi ce système séduit-il autant ?
Eh bien parce que c'est l'occasion de se lancer dans la création d'entreprises tout en bénéficiant d'un réseau solide. En clair, le franchisé n'est pas seul. Il reçoit en moyenne 40 heures de formation assurées par le réseau qu'il rejoint. Il est aidé, accompagné, soutenu par ses collègues. La mise de départ est abordable, 20 000 euros pour les petites chaînes, mais jusqu'à 300 000 euros pour les enseignes de restauration en vogue. C'est un métier où l'on n'exige pas de diplôme. Il fonctionne comme un ascenseur social, disent même ses défenseurs. Citant l'exemple d'un ancien livreur de pizza, aujourd'hui à la tête de 3 pizzerias. Un système qui intéresse aussi beaucoup les salariés qui souhaitent se reconvertir et les anciens sportifs de haut niveau, dont les franchiseurs apprécient le goût du risque.
Alors le goût du risque, car Agnès, il faut le dire, tout n'est pas rose dans la franchise.
Alors en principe, la réussite de l'un nourrit la réussite de l'autre, mais cela n'empêche pas les déconvenues et les abus. Le chocolatier Deneville, par exemple, vient d'être condamné à une lourde amende pour avoir restreint la liberté commerciale de ses franchisés, notamment sur Internet. Des manquements graves ont aussi été constatés dans certains réseaux de micro-crèches. Et puis tout récemment, la CFDT a attaqué Carrefour, qui développe le système de franchise et de location-gérance, au détriment, selon le syndicat, de la rémunération et des conditions de travail des salariés.
Les explications d'Agnès Soubiran du service économie de France Inter. J'aime la nature propre. Voilà le nom de cette grande opération nationale lancée par la Fédération des chasseurs. Pendant tout le week-end, partout en France, des chasseurs donc, mais aussi des randonneurs, des pêcheurs et des écoliers vont nettoyer plusieurs coins de nature, sacs poubelles à la main. Et direction la Creuse, où plusieurs opérations sont prévues jusqu'à demain. Hier, par exemple, une trentaine d'écoliers ont été mis à contribution à Anzème pour sillonner la plage au bord du plan d'eau. L'occasion de provoquer une prise de conscience, Marie-Jeanne Delepaule.
Au bord de la plage, les enfants courent un peu partout pour fouiller dans le sable et les talus. Ils apportent tous les déchets recyclables à Amaryllis, 10 ans.
Il y a des bouteilles, il y a des cartons, plein de trucs. Je trouve que c'est bien de faire ça parce que on se rend compte que les gens, ils n'ont aucun respect, quoi. Ils balancent tout partout.
Au bout d'une heure et demie, ils remplissent une quinzaine de sacs poubelles. Robin est choqué par ce qu'il a trouvé.
Des carcasses de voitures, un peu des enjoliveurs, tout ça. Des bouts de plastique dans l'eau. Si jamais ça s'envole, du coup, ça va aller dans la plage et les poissons, ils vont manger tout ça. Ils vont être malades.
Beaucoup d'inquiétudes pour l'avenir. C'est une génération très concernée, explique la maîtresse Laurence Renard.
Vraiment, ils ont été à fond dans leur collecte. Et c'était comme s'ils trouvaient des petits trésors et que c'était très important pour eux de l'enlever. C'était pas possible que ça reste. J'en ai certains qui sont vraiment profondément blessés par ce qu'on fait à la nature, en fait.
Une nature que les chasseurs veulent donc nettoyer avec tous les volontaires. Sophie Dumont, secrétaire de la Fédération départementale.
Du coup, on a les écoles, on a les mairies qui suivent, les associations de randonnée, les pêcheurs donc, qui ont répondu présent aussi avec nous, parce que la nature, elle appartient à tout le monde.
Et pour finir cette matinée de nettoyage à Anzème, les écoliers ont mangé à la cantine un repas fourni par les chasseurs avec terrine de chevreuil en entrée.
Un reportage de Marie-Jeanne Delepaule de France Bleu Creuse.
France Inter, 8h13, le journal des sports. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour à tous.
Et Emma, un crunch pour effacer l'ardoise.
Après un début de tournoi destination décevant, voire raté, le 15 de France s'est repris en main dimanche dernier au Pays de Galles et c'est l'heure de la confirmation face à l'Angleterre, lors d'un match si symbolique qu'une victoire pourrait presque faire oublier toutes les désillusions. De là à faire des bleus les vainqueurs de ce tournoi peu probable, ce serait un scénario incroyable avec une nécessaire lourde défaite de l'Irlande face à l'Écosse. Mais plus raisonnablement, le 15 de France peut viser une deuxième place qui serait un moindre mal, reconnaît le demi d'ouverture Thomas Ramos.
Ça serait bien forcément pour le groupe d'aller chercher cette deuxième place, parce qu'on a vécu une première partie de tournoi forcément compliquée, mais c'est pas une fin en soi. Aujourd'hui, il faudra quand même regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, notamment sur ce premier match contre l'Irlande et sur ce match contre l'Italie. Mais on a gagné, on a deux déplacements, deux belles victoires quand même, dans des belles équipes de notre rugby, donc forcément on a cet objectif de pouvoir terminer deuxième. On va jouer ce match à fond, on a envie de finir sur une belle note.
France-Angleterre, ça se joue à Lyon à partir de 21h. Avant cela, donc l'Irlande reçoit l'Écosse à 17h45 et le Pays de Galles affronte l'Italie à 15h15.
À 132 jours des JO, la course au ticket olympique se poursuit dans la plupart des disciplines.
Si les judokas sont fixés, tout est encore ouvert chez les escrimeurs, par exemple, puisque la fédération tranchera seulement le 1er avril. Alors d'ici là, il faut tout donner, et notamment ce week-end à Washington, où les meilleurs fleurettistes se retrouvent pour la 5e étape de Coupe du Monde. Ils sont une bonne dizaine chez les hommes à pouvoir prétendre à l'une des 4 places au JO, 3 en individuel, 1 par équipe. Parmi eux, Enzo Lefort, le Guyanais, qui devrait, sauf surprise, être à Paris l'été prochain. Fabrice Abgral.
À 32 ans, Enzo Lefort possède l'un des plus beaux palmarès de l'escrime française. Double champion du monde en individuel au fleuret et champion olympique en titre par équipe. Enzo Lefort, c'est le fer de lance du fleuret français. Il en est parfaitement conscient, mais il n'en tient pas compte.
J'ai la chance d'avoir un rapport à mon sport très égoïste. Bien sûr, quand j'ai ces médailles, je suis très content de les partager avec tout le monde. Mais c'est vraiment pour moi, c'est vraiment parce que j'aime jouer, que je n'aime pas perdre. Le fait d'entretenir cette relation avec mon sport me protège un peu de toutes ces attentes qu'il peut y avoir sur moi.
Enzo Lefort est une référence dans dans le monde de l'escrime, un sport traditionnellement pourvoyeur de médailles aux Jeux, mais toujours aussi confidentiel.
C'est quelque chose qui fait tellement partie de notre sport qu'il faut le voir comme une chance de, pourquoi pas, susciter des vocations. Et puis, il y a des sports qui sont encore moins bien lotis que nous, comme le taekwondo, la lutte gréco-romaine. Les mecs, on les voit, ils en chient tous les jours en salle de muscu. Ils s'entraînent plus que nous et on entend parler d'eux vraiment qu'une fois tous les 4 ans. Donc, enfin, je suis là où je veux être, c'est-à-dire que j'aime le fait de ne pas être une superstar, de pouvoir sortir dans la rue, faire mes courses. Et quand il y a de l'intérêt pour notre discipline, ben, faut le voir comme une chance de pouvoir mettre en avant notre discipline.
Quoi qu'il arrive aux Jeux de Paris, Enzo Lefort a bien l'intention de poursuivre sa carrière, si possible, jusqu'aux JO de Los Angeles en 2028.
Et puis c'est l'équivalent d'un grand chelem en tennis. Le jeune français Félix Lebrun est en demi-finale du Grand Smash de Singapour en tennis de table. Il affrontera tout à l'heure sa bête noire, le chinois Wang Shuqin, numéro 2 mondial. C'est à partir de 12h45.
C'était le journal des sports d'Emma Sarango.
Dans le journal de Luc Chemla, il est 8h16 sur Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Céline Dacosta, il fait déjà doux ce matin, de la douceur. Vous aimez nous parler de douceur?
Oui, mais c'est vrai, puis ça va durer toute la semaine prochaine encore. Ça devrait baisser le week-end prochain, devrait revenir à des normales de saison. En attendant, on est au-dessus, 8 à 15 degrés déjà pour ce matin. Ça va grimper cet après-midi, 13, c'est la plus basse pour Metz. Il en fera 15 à Paris, 17 à Lyon, 19 à Montélimar, 20 degrés à Tarbes et Marseille, jusqu'à 23 pour la maximale.
Où à, ça, Perpignan. À Perpignan. Mais oui,
évidemment.
Doux, mais encore gris et faiblement pluvieux ce matin.
Oui, un ciel assez nuageux, c'est vrai. Ce matin, avec même quelques bruines possibles, on aura quand même déjà un petit peu de soleil du sud de l'Aquitaine à la région PACA et encore. Soleil qui va gagner du terrain cet après-midi, qu'on retrouvera sur le quart sud-ouest et du Languedoc-Roussillon à la région Rhône-Alpes. Les éclaircies reviendront également sur le nord-est et surtout sur la pointe nord en débordant sur le nord de l'île de France. On a déjà eu quelques rayons de soleil qui ont essayé de braver les nuages, mais c'est les nuages qui ont gagné ce matin, voire un petit peu plus sur l'île de France cet après-midi. On l'espère parce que la pluie, c'est bien, mais le soleil, on en a aussi besoin. Et après un mois de février particulièrement gris sur la partie nord, le moindre rayon de soleil est un petit cadeau pour nous.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter. Il est 8h18, géopolitique.